Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous allez assister à un festival de musique en Espagne, ben il y a des chances que le nom soit en espagnol, hein, ou que ça sonne espagnol, puis vous dites ah ben ça tombe bien parce que je suis en plein milieu de l'Espagne, je suis à Madrid, je suis à Séville, peu importe. Puis là le nom du festival de musique c'est en espagnol, el Festival de la Música de Sevilla. Oh, olé, tu sais? T'en vas en Italie, t'es des El Festival de la Musica, per gli amici de la musica. Tu sais, tu t'en vas en Italie, t'attends que ce soit en italien. Tu vas aux États-Unis, tu dis c'est en anglais. T'arrives à Québec, la ville de Québec, au Québec, dedans le Québec. Tu dis, ben là, ça va être en français. Ben non, cet été, le 30 et 31 août, au marché Jean Talon de Québec, il va y avoir un festival, et le titre du festival, c'est le Unity Electro Fest. J'aimerais rappeler à tout le monde que en anglais, les substantifs se placent à la fin. Ça veut dire un music festival. En français, festival de la musique. C'est inversé, c'est dans la structure même de la langue. Alors, si tu fais un festival au Québec, ben il faut quand même que tu respectes un certain nombre de petites règles. Je sais que le français, c'est compliqué, c'est dur le français. Ouh là 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 là. Mais là, le Unity Electrofest, il n'y a rien. T'sais, c'est des mots anglais, mais en plus, la structure est anglaise. Alors, je suis allée voir sur leur site, parce que c'est aujourd'hui qu'ils donnent la programmation pour le festival. C'est la troisième année qu'on présente ce festival-là au Québec. Les autres années, ça m'avait échappé, sinon c'est sûr que je n'aurais parlé. Donc, le Unity Electrofest, 30-31 août, on arrive sur leur... page web. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on voit? Le line-up du Unity Electrofest à Québec, la ville de Québec au Québec. Bonjour! C'est comme ça que commence l'émission.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
On aborde maintenant un sujet à la fois délicat et extrêmement important. Donc, on prend des gants blancs sans prendre de gants blancs. C'est-à-dire que il faut parler des choses comme elles sont. Et des fois, les statistiques nous interpellent. On va parler avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie de femmes immigrantes et de violences conjugales. Je te laisse aller, Rémi. Je t'écoute.
Oui, c'est délicat. Effectivement, c'est comme être un funambule. Regarde... Moi, il y a deux choses qui m'énervent dans la vie, d'accord? La première des choses, c'est quand il y a des gens qui se disent porte-parole d'une cause ou qui veulent changer les choses pour les bonnes raisons, mais qui évitent de vraiment approfondir le sujet.
D'accord.
Pour des raisons idéologiques.
Donc, qui restent dans des généralités ou qui restent flous.
Oui.
Pour pas rentrer dans les détails, parce que les détails pourraient peut-être contredire leurs propos.
Alors même que leur projet, c'est de régler une situation,
sûr.
De sauver des gens. Bon, donc, il y a ça. Puis la deuxième affaire qui m'énerve, c'est de me faire engueuler. Donc,
il y a un potentiel pour les deux dans ce dossier-là.
Ouais. Donc, c'est un article dans la presse ce matin sur la violence conjugale dont sont victimes en très, très, très grande représentation les femmes issues de l'immigration. On a des chiffres. Dans les maisons de femmes victimes de violence conjugale à Montréal, ce sont 70 % des femmes qui sont nées à l'étranger. À Laval, c'est 50 %, c'est une femme sur deux. Et à Québec, tu sais, des fois, on dit à Québec, c'est pas une ville où il y a de l'immigration. Écoute, c'est 30 %, alors qu'elles ne représentent que 7 % des femmes à Québec. Donc, elles sont quatre fois plus
surreprésentées, donc de façon disproportionnée par rapport à la place qu'elles... Puis on parle toujours dans notre société de l'importance de la représentation.
Hein,
on dit, si tu représentes 6 % de la population, il faut qu'à la télé, par exemple, il y ait 6 % des personnages qui te ressemblent. Dans les programmes gouvernementaux, il faut que ce soit 6 %. Là, ici, on a un cas de surreprésentation de façon négative, c'est-à-dire que la violence conjugale, personne ne devrait en être victime.
Non, puis comme elles sont surreprésentées, il y a des gens qui, pour des bonnes raisons, décident de s'intéresser à ce phénomène-là, essayer de comprendre pourquoi.
Ouais.
Et là, écoute, il y avait eu un dossier au mois de janvier du Devoir, un gros dossier, le balado, plusieurs articles sur ce sujet-là très précisément, mm-hmm. et on avait dégagé là, un certain nombre de raisons. C'était quoi les raisons? Ben, c'est parce que ces femmes-là ont de la difficulté à se trouver un emploi en raison des préjugés. Hein, des préjugés des Québécois. Difficulté de trouver un logement aussi en raison des préjugés, manque de reconnaissance de leurs qualifications. Là, tu t'écoutes ça et tu te dis, bon, là, jusqu'à présent, c'est de ma faute.
Donc, c'est
si j'ai bien compris.
De la faute, de notre faute.
Oui,
c'est-à-dire,
comme société.
Collectivement, la société d'accueil est responsable du fait que. Mais je comprends pas très bien, excuse-moi, parce que des fois, l'idéologie woke est difficile à
suivre.
Oui,
c'est normal.
Donc, une femme qui n'arrive pas à se trouver d'emploi se trouve, donc j'imagine, plus vulnérable face aux revenus de son conjoint.
Exactement.
Qui, donc, elle aurait plus tendance, ou son mari est peut-être fru, puis il y a plus tendance à lui taper dessus. En même temps, si on dit qu'il y a une discrimination envers les gens issus de l'immigration, il y aurait autant de frustration de la part de son mari, puis son mari non plus n'arriverait pas à trouver de boulot.
C'est pas faux. C'est pas faux du tout.
En tout cas.
Moi aussi, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre, mais on va creuser. Donc là, il y a ces explications-là. Je lisais ce matin dans un nouvel article dans la presse, on dit il faut une réforme en profondeur, une volonté de briser les chaînes de l'ignorance et de l'inaction. Le Québec doit être un refuge et non une prison. Et là, tu te dis waouh, OK, je pensais que la raison pour laquelle.
Mais c'en est un.
Et là, le problème, en fait, c'est que là, on confond un certain nombre de choses. Le Québec est devenu finalement l'endroit où les immigrants sont les plus vulnérables en matière de violence conjugale. C'est même écrit dans le dossier du Devoir. On nous disait que c'est l'immigration, le processus d'immigration qui rend violent. D'accord?
Attends deux secondes. Juste, tu permets, là, ça va être vraiment être une interaction entre toi et moi, cette chronique-là. C'est que le processus d'immigration, pour quiconque, c'est un processus qui est violent. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est se déraciner, peu importe, que ce soit partir de France pour venir ici, que ce soit partir d'un pays en guerre pour s'en aller dans un pays en paix, que ce soit, peu importe, le processus d'immigration, même s'il se fait dans la joie et la bonne humeur et qu'elle soit désirée, c'est un processus violent parce qu'on se déracine et on perd nos repères. Donc, on peut pas dire que dans ce cas-ci, juste quand tu viens au Québec, là, ça engendre de la violence. Ben oui, mais ça veut dire que ça engendrerait de la violence partout ailleurs aussi où des gens sont immigrants?
Oui. Et là, tu viens de toucher à la toute fin de ton intervention un point important.
C'est
que là, c'est quand même intéressant de s'intéresser au niveau de violence dans les pays d'origine de ces gens-là. Puisque si c'est l'immigration, la politique migratoire, le système d'immigration au Québec qui rend violent, c'est donc dire que d'où ils proviennent, ces gens-là, il y en a moins de violence.
Voilà.
J'ai été quand même vérifié.
Oh, je t'adore.
Ouais, OK, d'accord. Et là, on va pas se moquer, mais c'est quand même intéressant. Alors, l'Afrique... qui quand même ont une source d'immigration assez importante au Québec. Savais-tu que, bon, c'est un continent de 1,4 milliard de personnes, il y a plus de féminicides en Afrique que sur tout le continent asiatique à chaque année. Le continent asiatique...
J'adore, c'est vraiment, tu as fait un travail de sociologue, tu as fait un travail de journaliste, tu as fait un travail de comparaison factuelle, chiffrée, j'adore, c'est parfait, c'est un excellent argument.
20 000 en moyenne par année, quand on considère le Moyen-Orient et l'Afrique comme un tout, 20 000. OK, on est rendu à 9 au Québec, c'est 9 de trop, mais 20 000, là, ça veut dire que c'est des centaines et des centaines par jour. Là. Et là, quand je dis l'Afrique, c'est parce que l'Afrique, c'est 30 % de la population asiatique et on a quand même plus de féministes. Donc, est-ce que ça se pourrait?
Donc, c'est pas clair. L'Afrique par rapport à l'Asie est moins peuplée.
Oui, de 30 %.
Donc, si on compare les
normalement,
populations.
Normalement, il devrait avoir plus de féminicides en Asie.
Voilà,
d'accord?
C'est ça.
Si c'est une question de population.
Mais à 20 000, on se retrouve donc de façon disproportionnée par rapport à l'Asie si on compare les populations.
Bien sûr, bien sûr.
Au prorata des populations.
En ce moment, en Afrique, et ces journalistes-là devraient s'y intéresser, il y a un gros phénomène. Les femmes sont dans la rue pour dénoncer la violence conjugale, pour dénoncer les féminicides, notamment au Kenya.
Oui.
En Turquie, il y a un mois à peine, c'est 7 féminicides dans une journée.
Oui.
Donc, ce sont des pays où la culture est différente. Est-ce que je suis en train de dire que les hommes tuent plus de femmes parce que les hommes sont plus des tueurs? Non, pas du tout.
Oui.
Mais c'est une culture différente. Les rapports entre les hommes et les femmes sont différents.
Oui.
Le rapport à l'autorité dans un couple est très différent. Et ça, ben, c'est très possible que ça voyage avec les bagages quand ça arrive ici. Et que ça explique en bonne partie le phénomène qu'on observe dans les maisons de personnes victimes de violences conjugales. Parce que je regrette, mais c'est pas le système qui rend les hommes violents. ce sont des gens qui amènent avec eux des pratiques qui sont différentes et qui ensuite vivent peut-être toute cette frustration-là qui est vécue effectivement.
Et la raison pour laquelle...
Mais à la base.
Mais c'est que, mettons que tu regardes les chiffres, tu dis, OK, les femmes victimes de violences, les femmes qui sont issues de l'immigration sont surreprésentées dans les maisons qui leur viennent en aide. Normalement, tu devrais avoir de l'empathie et dire, ben, soulignons ce phénomène-là et analysons ça dans une perspective de dire, de nommer les choses. Exactement. Tu sais ce que disait Camus, quand mal nommer les choses, c'est déjà le début d'un malheur ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Mais si on dit, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vient du Mali, il y a une forte proportion de gens qui viennent du Mali, ben, aidons spécifiquement les femmes du Mali. Mais les féministes et les wo-woke et les go-gauches et tout ça vont dire non, il faut pas faire ça parce que si vous faites ça, vous stigmatisez les femmes qui viennent de l'immigration, vous stigmatisez les femmes qui viennent de tel pays, alors que ce n'est pas leur rendre service que de se fermer les yeux et de pas regarder ça et de pas l'analyser, de pas d'essayer de le comprendre.
Ben c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui se drapent de bonnes vertus, qui se disent
oui.
J'ai une cause dans la vie, je veux régler des problèmes, et là tu as une bonne partie de la solution qui est quand même dans l'idée d'étudier le profil des bourreaux, d'étudier le profil de ces hommes qui s'en prennent à des femmes, de dire, bon, ben écoute, peut-être qu'effectivement, il faudra en accueillir moins de gens issus de cette région dans le monde-là, parce que là, on leur remarque que si, au niveau de l'intégration, c'est pas réussi.
Ou peut-être, parce que bon, c'est un petit peu, peut-être un peu drastique comme mesure, mais à tout le moins d'avoir une peut-être un programme de expliquer. Aller à la rencontre des hommes de cette communauté-là et de leur dire, ben écoutez, dans votre pays, ça se passe de telle façon. Vous arrivez ici, au Québec, on prône, nous, l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous pouvez pas frapper votre femme, demande-toi pas ce qu'elle a fait parce qu'elle, elle le sait. On frappe pas les enfants, on frappe... Tu sais, de faire un cours de respect des femmes 101, ça se peut-tu, ça?
Ça se peut, mais le problème, Sophie, c'est que je lisais cet article-là donc ce matin où l'auteur disait... Ça existe déjà, ce genre d'approche-là, mais les gens ne sont pas habitués d'intervenir avec des gens issus de certaines régions. C'est parce qu'à un moment donné, on dirait que le devoir d'intégration, hein, ce qu'appelle Mathieu Bocoté, est inversé. Là, on a l'impression qu'il faudrait tout faire pour que ces gens-là comprennent, alors que ce serait peut-être plus simple d'en accueillir peut-être moins.
Voilà.
En fait.
Dans un autre ordre d'idée, mais un petit peu dans ce même... Dans cette même idée-là, tu sais, au Québec, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est la culture du viol au Québec, la culture du viol,
ah oui,
la culture du viol. » Mais évidemment, ils vont voir ça alors que... quiconque dénonce un viol au Québec, les gens sont horrifiés et il y a personne qui dit hey, c'est formidable, on adore ça, le viol. Pendant ce temps-là, en Afrique du Sud, c'est un des pays, si ce n'est le pays au monde où il y a le taux de viol le plus élevé. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de parler de l'Afrique du Sud en disant il y a la culture du viol, ou s'il y a des gens qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent ici et qui violent, ben de dire ben oui, ben c'est sûr parce qu'ils viennent d'un pays où il règne la culture du viol. Mais non, parce que personne ne le ferait au Québec, parce que les gens diraient c'est stigmatisé. Donc, ils choisissent leur combat, ces gens-là, et c'est quand même assez intéressant. Donc, merci d'avoir fait les vérifications de chiffres, très appréciées. Merci beaucoup, Rémi Villemur.
À bientôt, Sophie.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
Bon, ben décidément, on va parler beaucoup des hommes dans cette émission. On va parler de masculinité toxique versus la masculinité positive avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
Allô Sophie.
Oui.
Ben effectivement, j'ai entendu ton micro précédent, ton intervention avec Rémi, puis il y a quand même un lien entre nos deux segments. C'est parti ma réflexion depuis longtemps, mais c'est parti ce matin en voyant cet article-là dans la presse de Nathalie Collard, où sont les hommes qui vont bien, parce qu'elle s'intéresse, elle passe en entrevue Nicolas Morel et Sarah Maud Beauchesne, qui vont écrire une série qui s'appelle Bellefleur et qui va parler de masculinité positive. Je suis tellement content. J'ai des micros depuis longtemps dans la vie, puis j'ai essayé souvent à la radio, à la télé, de parler des hommes, puis ça intéresse personne. J'ai essayé d'apporter des projets télé, des chroniques dans des émissions. Ça intéresse personne. Je trouve qu'à la télé, dans les publicités, dans les films, on est souvent comme le méchant, on est l'idiot dans les publicités, le niaiseux. Tu sais, les publicités, ça n'a plus de bon sens. Là, vous allez voir, là, bientôt, il va y avoir les publicités qui vont commencer pour l'été, là, le SUV là, qui est plein, là, le rabat avec le canot sur le top, puis tout ça, puis là, c'est madame qui conduit, puis monsieur qui n'est pas capable de mettre le système d'alarme sur la maison.
Non, mais il est trop niaiseux.
Il est trop nounou. Puis dans les téléromans, on est souvent le méchant. Puis les autres qui disent, c'est soit on est caricaturé très rose, ou encore l'homme très, très homme. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis Nicolas, ce qu'il dit, dis-moi, quand je regarde la télé, je reconnais pas mes amis. Mm-hmm. Je reconnais pas mes chums de gars avec qui prennent soin de leurs femmes, qui prennent soin de leurs enfants avec leurs défauts, là, avec leur façon de faire, parfois malhabiles, mais qui font de leur mieux. Je les vois jamais à la télévision. Et là, ben, je suis content qu'on parle de ça. On commence à en entendre parler de plus en plus, d'ailleurs, à gauche puis à droite. Et je suis très heureux qu'on arrive avec une série comme celle-là.
Ouais. En même temps, faut pas non plus caricaturer parce que tu regardes, il y a quand même plein de séries québécoises avec plein de personnages. C'est sûr que tu vas avoir un film comme c'est L'Empereur, je pense, avec Jean-Philippe Peyrat. Ouais, c'est ça, qui joue le rôle d'un abuseur. Mais tu sais, donc, en même temps, il faut aussi comprendre. T'écris pas une série. Tu sais, de la même façon que, comme journaliste, tu vas parler de l'avion qui s'est écrasé et tu parleras pas des 22 000 avions qui ont bien atterri, ben une série télé, c'est aussi pour s'intéresser à des aspects plus complexes de l'âme humaine. Tu sais, c'est pas regarder toute une série où les gens sont parfaits, puis sont donc bons, puis sont donc ben fins, puis donc ils changent donc ben les couches de son enfant. Ben, je veux dire, c'est peut-être plate aussi.
Ben, sûrement.
Tu comprends ce que je veux dire?
Tu sais, moi, j'ai écrit de la comédie dans la vie, puis j'écrirais pas un personnage juste gentil qui fait bien les choses, parce que tu veux le caricaturer. Mais tant mieux s'ils réussissent à en faire quelque chose. Mais surtout, tant mieux si ça fait jaser. Tu sais, je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Je suis content qu'il y ait ces articles-là. Puis je te fais un lien avec un spectacle que je vais animer dans les prochains jours sur la santé mentale et sur le bien-être des jeunes. OK? Puis on a réuni des jeunes. Puis on leur a demandé de quel terme et thème ils voulaient parler. Puis ils ont écrit des textes. Il y en a qui vont faire des monologues et tout ça. Et quelque chose qui est revenu beaucoup, c'est les jeunes garçons qui avaient plus de mal à l'âme, disons ça comme ça, qui se cherchaient dans la société. Oui, j'ai vu passer des commentaires comme, tu sais, mais moi, j'aime le hockey, j'aime les combats extrêmes, mais on dirait que je suis capable de pleurer aussi. Je suis capable d'être les deux, mais on dirait que je me sens jugé d'un côté comme de l'autre. Le fait de les jeunes, ce qu'ils disaient, c'est on apprend à s'exprimer. Mais oui, c'est difficile avec nos chums de gars. C'est plus difficile à le faire. On commence, mais on voudrait savoir un peu où est-ce qu'on se situe. Puis même un commentaire qui est revenu dans parce qu'on m'a tout envoyé, parce que je vais en faire des blagues, je vais faire liens entre les textes puis tout ça. C'est de dire, présentement, on parle beaucoup, beaucoup des jeunes filles. On parle beaucoup, beaucoup des gens avec une orientation sexuelle diversifiée. Puis les garçons sont comme, les autres, les gars, ils vont bien, les gars sont... Les gars, c'est les gars, là.
Écoute, c'est de la musique à mes oreilles. C'est de la musique à mes oreilles parce que tu dis que toi, t'as un micro et que donc, ça fait des années que tu utilises ce micro-là pour essayer de sensibiliser à ça. Je fais juste copier-coller ce que t'as dit. C'est exactement la même chose que je fais à la radio, à la télé, dans les journaux. Ça fait des années que j'en passe. Ça fait des années que je fais des entrevues avec des gens comme Égide Royer qui alertent sur, justement, les... le décrochage scolaire chez les garçons, que je fais des entrevues avec des groupes qui viennent en aide aux hommes, qui sont pas des groupes masculinistes, pas du tout, mais qui sont des groupes qui viennent en aide aux hommes et qui se plaignent de sous-financement et qui se font répondre, ben là, si on commence à financer les groupes pour hommes, on n'aura plus d'argent pour les groupes pour femmes. Je pense que comme société, on a les moyens de faire les deux parce qu'il y a des besoins des deux côtés. Et quand tu parles de la détresse chez les gars, je rappelle quand même qu'il y a quelques années de ça, ma grande chum dans la vie, Denise Bombardier, qui me manque décidément chaque jour que le bon Dieu amène, elle avait fait un documentaire justement sur la détresse des hommes, puis les gens avaient dit « Oh ben là, franchement, les hommes, arrêtez de vous intéresser aux hommes », puis tout ça. Puis Denise, elle disait qu'on vivait dans une sorte de matriarcat et que, elle s'était fait ramasser à cause de ça. On peut dire que... Il y a un certain pouvoir, ça ne veut pas dire tout le pouvoir, mais il y a un certain pouvoir qui est utilisé par les femmes en ce moment au Québec, qui se fait au détriment des hommes et que moi, je prône pour l'égalité, c'est-à-dire intéressons-nous autant à la détresse chez les femmes que chez les hommes.
Bien, je suis d'accord avec toi, puis je le vois bien que tu prônes ça, puis je vois bien quand tu fais des articles là-dessus ou que tu le publicises sur tes médias sociaux, les réactions que tu as.
Mais
c'est
oui.
difficile de parler de ce sujet-là.
Oui.
Imagine, tu es une femme. Moi, quand je l'ai essayé comme homme, là,
pire aussitôt, encore.
Hey, c'est comme si tu t'attaquais aux femmes. C'est pas ça que je dis. Là, tu te fais répondre, ouais, mais toi, tu n'as jamais marché dans la rue, dans une ruelle, puis avoir peur. Non, mais attends un peu. Je suis d'accord aussi là. C'est pas parce que on dit hey, il y a des hommes qui vont mal, des hommes qui se retrouvent pas dans la société d'aujourd'hui, des hommes qui veulent qu'on leur laisse exprimer leurs émotions mais à leur vitesse, dans leurs mots, que c'est peut-être pas facile puis pas naturel présentement que je dis que tout est beau puis que tout est facile quand on est une femme. C'est pas ça que je dis, mais il y a de la détresse des deux côtés.
Ouais.
Mais on dirait que du côté masculin, on veut pas l'avoir parce qu'on a été privilégié puis gâté pendant des années. Fait que là, fermez votre trappe, vous autres, c'est facile.
Sois beau et tais-toi. Et j'en ai un excellent exemple, même si c'est beaucoup plus extrême que tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Quand le mouvement MeToo a commencé, le mouvement MeToo, ça veut simplement dire « moi aussi », donc des gens qui disent « moi aussi, j'ai été agressé sexuellement », ben, il y avait des témoignages d'hommes. Il y a des hommes qui ont été agressés par un curé, par un prêtre, par un entraîneur, par un oncle, par un... Tu sais, je veux dire, donc,
ben oui.
Et à chaque fois qu'on parlait du mouvement MeToo, on disait la libération de la parole des femmes, la libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles. Puis chaque fois que je soulignais ça en disant « c'est pas juste les femmes, c'est aussi les hommes », je me faisais répondre « oui, mais c'est juste une minorité d'hommes ». Mais t'irais dire ça à un gars qui s'est fait violer par son entraîneur de hockey. Toi, t'es juste une statistique, puis vous êtes juste comme 5% à vous être fait violer, fait que c'est moins important pour toi. Mais chaque personne qui est violée, c'est grave. C'est épouvantable de dire... Ça nous empêche pas d'avoir de la peine pour les femmes qui ont été violées, mais peux-tu leur reconnaître qu'il y a des hommes qui ont été victimes de viols, qui ont été victimes d'inceste? C'est comme s'il fallait toujours choisir entre les deux.
Oui, puis présentement, comme on n'a pas cette rage au cœur-là, on laisse souvent tomber. On fait « oh, gars, je vais parler d'un autre sujet, parce que de toute façon, puis pas juste là, on parle dans les médias, mais même dans un souper entre amis ou quelque chose, là, tu fais « oh non, j'ai pas envie de me pogner ici aujourd'hui,
de ça
toute
dépend.
Façon... »
Moi, j'en parle parce que mes amis sont capables de le prendre. Ils me connaissent. Hey, merci, Jean-François. À demain.
Alors, continuons de parler positivement des hommes.
Le combat, absolument. Merci, bye-bye. Jean-François. J'adore ça. Merci, à demain.
Sophie Durocher.
Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
Alors, je suis mariée depuis 20 ans, mais si je n'étais pas mariée, peut-être que j'irais faire un tour sur Tinder. Mais je vous rassure tout de suite, là, appelez pas Richard, j'ai pas l'intention de me mettre sur Tinder, pantoute, j'adore Richard, je t'aime. Mais si j'étais pas mariée, peut-être j'irais sur Tinder. Et peut-être que si j'allais sur Tinder ou un site de rencontre, peut-être que je voudrais paraître à mon meilleur, tu sais, puis me faire photographier et tout. Et ma prochaine invitée s'appelle Marine Gilbert, elle est une photographe montréalaise et elle offre des séances en plein air pour optimiser son apparence sur les applications de rencontre. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors, comment vous avez commencé à faire des photos pour, on dit Tinder, mais ça peut être Grindr, ça peut être n'importe quoi là. Ouais. Comment ça a commencé?
Ben moi en fait, ça fait 5 ans que je suis photographe.
Ouais.
Et je pense que ça fait à peu près 3 ans que vraiment...
Rapprochez-vous du micro, sinon on ne vous entend pas. Approchez votre chaise et tout ça. Rapprochez l'ensemble de votre œuvre.
D'accord.
Voilà.
Donc, je pense que ça fait bien 3 ans que je commence à avoir vraiment beaucoup plus de demandes pour ce genre de séances, pour les applications de rencontres, pour Tinder, pour que ce soit Bumble, quelconque application de rencontre, ouais.
Et comment ça a commencé? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les gens vous approchent en disant... Parce qu'on peut aussi se prendre en selfie, mais là, ça va être tout croche. Donc, comment vous avez pu présenter un avantage comparatif?
C'est ça. Mais en gros, moi, c'est des clients qui m'ont demandé vraiment spécifiquement pour les sites de rencontre. Et je me suis dit, OK, il y a vraiment de la demande pour ce genre de séance. Donc, j'ai un petit peu spécialisé dans ce domaine pour que mes clients soient sous leur meilleur jour pour les applications de rencontre.
Alors, c'est délicat quand même parce que, c'est sûr que quand on m'a raconté, hein, moi, je ne suis jamais allée. il paraît que donc, parce que les gens passent très rapidement, donc il faut qu'en un coup d'œil, on ait une idée de la personne, il faut qu'elle se soit attirant. Puis en même temps, il ne faut pas tricher non plus. Donc, comment vous arrivez à jouer tricher entre les deux?
Ben moi, j'essaie de prendre des photos qui soient quand même, qui ressortent, qui soient très naturelles.
Ouais.
Je sais pas trop de faire des photos qui soient posées. Donc c'est des photos de très bonne qualité, c'est ça, professionnelles, mais qui font comme si ça pourrait être un ami qui aurait pris la photo.
Ah.
Donc je fais beaucoup de photos où ils sont, ouais, par exemple en train de marcher, en action, un peu plus côté naturel. Mais voilà, c'est ça, qu'il fasse ressortir une bonne énergie, la bonne énergie de la personne.
C'est-à-dire qu'en fait, une photo, c'est un petit peu capturer l'âme de quelqu'un.
C'est ça.
Et quand on va sur un site de rencontre, ce qu'on veut, c'est savoir, bon, évidemment, est-ce que la personne est cute ou pas, parce qu'on n'a pas envie, bon, d'être avec un laideron, en général. Mais c'est aussi, on veut, en une photo, un petit peu savoir quel c'est genre ça. De personne c'est. Donc, c'est un petit peu ça, votre défi.
C'est ça, le défi. C'est très rapide. C'est vraiment, c'est la première photo, ça va être l'effet... ça va être vraiment ce qui va faire effet. Donc,
ouais,
le but, c'est ça, c'est d'avoir vraiment une belle photo.
Est-ce que vous êtes vous-même sur les sites de rencontres?
Moi, non.
Non.
Je suis en couple.
Ah, vous êtes en couple. OK, parfait. Donc, je veux pas... Oui, la fouteuse de merde du rocher qui se met là-dedans. Bon, parfait. Mais si vous étiez sur un site de rencontre...
J'ai été.
Ah, vous l'avez déjà été?
Oui, j'ai déjà été sur les...
Est-ce que c'est comme ça que vous avez rencontré votre partenaire?
Oui, j'ai aussi des... mes photos, personnellement, j'ai fait appel à mes amis photographes professionnels. c'est vrai.
La photographe photographiée...
J'imagine que ça a aidé.
Donc, la personne avec qui vous êtes en ce moment, vous l'avez rencontrée...
Grâce à une application, oui.
D'accord. Je connais pas Bumble. C'est quoi, Bumble?
C'est une application de rencontre.
D'accord.
Bumble, ouais.
D'accord. Parfait. Donc, parce que moi, tu sais, c'est ma tante, Sophie. Hein. Fait que c'est compliqué. Moi, déjà, Tinder, Grindr, je sais que c'est pas pareil. Mais là, Bumble, vous me rajoutez comme un niveau de...
J'imagine. Et il doit y en avoir tellement de... plus.
Il y en a plein. Est-ce que, par exemple, les clients vous demandent, est-ce que c'est différent selon le site de rencontre? Est-ce qu'il y a comme des règles ou c'est partout pareil?
Non, moi, je fais le même genre de séance.
D'accord.
Peu importe l'application, c'est juste...
D'accord. Ça coûte combien?
Ça coûte combien? Moi, je charge $170 pour 5 photos.
Pour 5 photos.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous revoir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent...
Ouais.
Bon, ils ont changé, ils avaient les cheveux courts, les cheveux longs, ils se sont teints en blond et donc ils reviennent?
Oui, j'ai des clients réguliers, j'ai des clients qui veulent une séance quasiment à chaque saison. Parce qu'ils changent, parce qu'ils veulent...
Attendez deux secondes, à chaque saison?
Oui, j'ai des clients réguliers qui veulent aussi, parce qu'on fait aussi une séance dans un endroit différent.
Ouais.
Après, c'est aussi changement de vêtements. Donc, il y a des gens qui aiment vraiment les photos, changer de photos.
Mais ça, c'est très intéressant, Marine, parce que ça veut dire aussi que ce sont des gens, parce que c'est quand même $170 à chaque fois. Donc, il y a 4 saisons dans l'année. Ça fait en gros 800 $.
C'est un budget.
Par année. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on s'investit.
C'est un investissement.
On investit dans soi-même.
C'est un investissement. Mais j'ai aussi des clients qui m'ont dit qu'ils ont aussi un coach en séduction qui leur ont conseillé de prendre des photos professionnelles. Donc, c'est vraiment, ils investissent vraiment un budget dans la recherche de l'amour.
OK. Donc ça, le coach, on vous voit à l'œuvre ici, là, dans les photos. Alors, je rappelle quand même, moi, j'aime toujours rendre hommage à mes collègues. C'est Louis-Philippe Messier, qui fait une chronique dans le Journal de Montréal, qui nous a fait découvrir votre travail. Donc, on salue Louis-Philippe parce qu'il nous donne souvent des bonnes histoires. Mais c'est quand même donc des gens qui ont des fois des coachs de séduction.
Arrive,
est-ce que les coachs de séduction leur disent tu diras à la photographe qu'il faut qu'elle prenne tel type de photo? Est-ce qu'il y a des photos plus gagnantes que d'autres?
C'est ça, j'étais surprise, j'ai eu un client qui est venu avec carrément un PDF de 4 pages en expliquant le genre de photo qui ferait vraiment bonne impression pour les sites de rencontre. C'était vraiment très détaillé.
Wow!
Donc, quelle pose avoir, quel type de vêtements, donc ouais.
Bon, alors mettons, donnez-moi des conseils. Richard, c'est juste pour la radio, c'est juste pour la télé. Bon, mettons là, vous devriez me prendre. Bon, d'abord, il aurait fallu que j'arrange mes cheveux là.
Les cheveux.
Mais mettons que je vais sur Bumble. Alors, qu'est-ce que comme il faut pas les bras croisés, j'imagine,
non,
parce
pas les
que
bras
ça
croisés.
Ça empêche la communication.
Peut-être je fais aussi des photos en plus en étant assis, effectivement. Donc ça pourrait être assise, mais après les bras pas comme ça parce que c'est
pas
trop...
comme ça. Ok, non, allez-y.
Non,
dirigez-moi. Dirigez-moi.
Ça pourrait être. Bah, moi, ce que je ferais, c'est que je dirais une position, peut-être quelque chose comme ça, ou peut-être changer aussi la tenue.
Appelle-moi. Donc, non, mais excusez-moi, comme ça?
Ouais, quelque
comme
chose
ça,
comme
c'est
ça.
Bien.
Bah, après, là, c'est compliqué de...
Ouais, non, mais donnez-moi des conseils.
Ouais.
Donc, ce serait trop sévère, ça, habillé comme ça? C'est une personne qui a envie de swiper?
Oui, bah, c'est ça,
sur,
avant une séance, je conseille quand même sur les vêtements, sur...
Quelque chose de plus féminin, peut-être?
Quelque chose de plus coloré, j'aime bien souvent.
Ah,
je conseille
plus coloré,
je conseille de porter de la couleur souvent, ça fait ça pop dans la photo.
D'accord, d'accord. Donc, tout ce qui permet de sortir du lot.
C'est ça, sortir du lot.
De se faire remarquer. Est-ce que, des fois, les gens, s'ils ont connu le succès sur l'application en question, est-ce qu'ils vous rappellent en disant « Marine, merci, grâce à toi, j'ai réussi à... » Je sais pas, là, je veux pas être vulgaire.
Oui, bien sûr,
là, mais...
non, j'ai eu des retours.
J'ai conclu.
J'ai conclu. j'ai eu des retours de certains clients qui m'ont dit que, qui m'ont remercié, qui m'ont dit que ça,
ah, ouais.
Ça les avait aidés, sûrement.
Est-ce que c'est arrivé parfois que, bon, vous faites une photo d'un individu X, l'individu X, excusez-moi, j'en perds la voix, met ces photos-là donc sur le site de rencontre, rencontre quelqu'un et la personne arrive en disant, mais tu ressembles pas pantoute à ta photo?
Ben, moi, je fais aucune retouche du physique. Donc, la personne que je prends en photo, ça va être vraiment la personne que vous allez rencontrer.
Mais non.
Mais je sais qu'il y a des gens qui...
Qui jouent un peu. Non, mais c'était plus dans le sens, Marine, regardez, moi, vous me demandez de me tenir comme ça, là. Mais les gens qui me connaissent ici, ils savent, c'est pas du duche, ça. Là, moi, c'est comme ça, là. Et c'est bien trop sérieuse. Moi, je suis la folle de service.
Donc, vous
devriez
prendre une photo, là, maintenant, pendant que vous êtes en
voilà.
Pour que ce soit plus...
Alors, parce que moi, je suis passionnée, je suis comme ça, là. Ouais. Comme
dans ce cas, je devrais prendre la photo comme ça, à la volée, sans que vous vous rendiez compte, pour que ce soit plus naturel.
C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, les gens peuvent se dire, bon, ben, j'ai choisi la photo du gars selon... J'ai choisi le gars selon sa photo parce qu'il avait l'air calme et sensible. En fait, c'est une espèce de grosse brute sanguinaire, sans sens de l'humour. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais après, ça, c'est difficile de...
C'est pas votre responsabilité, non. Marine. Alors, depuis que l'article de Louis-Philippe Messier est paru dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, est-ce que vous avez eu votre téléphone dérougit pas? Il y a plein de gens.
Hier, j'ai eu 3 ou 4 contrats.
Quand même.
Ouais. Après, j'ai eu plusieurs messages depuis hier, suite à l'apparition de l'article.
Est-ce que vous arrivez à vivre de ça? Autrement dit, est-ce que c'est l'essentiel de votre...
Oui, c'est la photo, c'est janvier.
Ben, c'est formidable. Bon, ben, j'adore ça. Je veux tout de suite rassurer tous les gens qui seraient éventuellement intéressés à ma candidature. Je ne suis pas sur les applications de rencontre. Que ce soit clair. Marine Gibert, vous êtes photographe montréalaise. Merci beaucoup.
Oui.
C'était extrêmement intéressant.
Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Ben oui, toujours.
Oui, donc si les gens veulent voir mon travail, c'est sur Instagram, sur Marine Gibert, G-I-B-E-R-T, _ photographer.
Excellent. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Marine.
Merci.
Elle se déplace du côté court au côté jardin. Pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Si jamais lundi prochain, je ne suis pas devant ce micro, il y a une explication possible, ça voudra dire que c'est moi qui ai gagné le gros lot de 70 millions de dollars ce vendredi. C'est un des plus gros lots jamais mis en jeu dans la province. Donc, ça va être le Grand Prix du Lotomax ce vendredi. On va en parler avec Renaud Dugas, qui est porte-parole et directeur des relations publiques, des relations médias, pardon, chez Loto-Québec. Monsieur Dugas, bonjour.
Bonjour. Ça va me faire plaisir de vous accueillir au bureau lundi matin.
Ben oui, on peut-tu prendre déjà le rendez-vous? Moi, je suis sûre que je vais gagner. Bon, Monsieur Dugas, on dit que c'est un des plus gros lots jamais remportés. Donc, 70 millions. Le plus gros, ça a été quoi?
En fait, c'est le plus gros lot. 70 millions, c'est le plafond maximal au Lotomax. Donc, et dans les dernières années, il a été remporté 3 fois au Québec. De 70 millions, 3 fois au Québec. Donc, il y a des familles, 3 familles là, qui ont été excessivement chanceuses. Oui, tout à fait.
Moi, la question que je me pose tout le temps, c'est, on dit l'argent fait pas le bonheur, mais ces 3 familles-là qui, au cours des dernières années, ont gagné 70 millions. Est-ce que vous restez en contact avec ces gens-là? Est-ce qu'on sait à quel point ça a changé leur vie, pas changé leur vie, pour le mieux, pour le moins bien? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait?
On s'entend que ça change une vie.
Ben oui.
C'est un montant, c'est tellement énorme comme montant, mais tout à fait, il y a des suivis qui se font. Premièrement, lorsqu'ils viennent réclamer leur lot, à la base, on a une bonne rencontre avec eux, on leur remet de la documentation, des conseils, etc. Mais on fait toujours, nous, puis peu importe le montant, à partir des montants importants, on fait des suivis avec nos gagnants.
Ah, oui.
Après deux mois, après six mois, on s'assure que tout va bien, on leur demande est-ce que vous avez réalisé les projets que vous nous avez dit lorsque vous êtes venu réclamer le lot. Et dans la majorité des cas, là, on a toujours des beaux sourires. Puis les gagnants sont contents aussi de recevoir un appel.
Ben
c'est
oui.
rassurant à un certain niveau aussi de savoir que l'Auto-Québec, on prend soin de notre monde on continue
jusqu'au
de prendre soin jusqu'au bout, exactement.
Bon, alors, des histoires comme les familles La Vigueur, je devais être tanné d'en entendre parler. Pour les plus jeunes qui savent pas ce que c'est, hein, les La Vigueur, c'était une famille très, 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 très modeste qui avait gagné, donc ils avaient perdu leur billet. Quelqu'un, un bon samaritain, leur avait rapporté leur billet et ils ont en fait pas mal dilapidé leur argent, puis surtout ça les a pas rendus, tu sais, il y a eu beaucoup de chicanes dans la famille.
Oui.
Est-ce que des cas de chicanes qui viennent avec un gros montant, c'est fréquent?
Mais cette histoire-là a marqué le Québec.
Absolument.
A marqué...
Je dirais traumatisé le Québec.
Oui, tout à fait, mais les gagnants qui arrivent chez nous maintenant ont tous cette histoire-là en tête.
Ah,
ils veulent tous
oui?
pas être la famille ou les... mais ils
veulent pas être des La Vigueur 2.0.
Exactement, mais d'accord. Souvent, là, en fait, là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que les gagnants qui arrivent pour réclamer leur lot, ils ont déjà leur rendez-vous avec leur institution financière de prix.
Wow.
Ils ont déjà, alors, ils ont déjà commencé à penser à bon, de un, il y en a qui vont s'acheter une auto rapidement,
ouais,
mais il y en a qui se disent, oui, c'est correct aussi, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, mais il y en a qui, justement, ils ont leur rendez-vous, ils veulent prendre le temps de bien faire des choix, parce que là, avec un 70 millions, en plus, c'est libre d'impôt. Bon, rendu là, je pense que qu'il y a de l'impôt, qu'il n'y a pas d'impôt, mais il n'y en a pas d'impôt. Fait que c'est 70 millions net. Ces familles-là, non, on y essaie de faire des choix qui sont intelligents pour eux, qui vont dans le sens de leurs valeurs aussi. Ça change pas nécessairement les valeurs des gens, mais bon, ça leur donne plus de moyens.
Plus d'ampleur.
Plus d'ampleur, exactement.
Alors, les statistiques, évidemment, les probabilités, c'est le nerf de la guerre à l'Auto-Québec. Quand on annonce comme ça, parce qu'il y a énormément de publicité, les 70 millions, 70 millions, 70 millions, plus il y en a 13 millions
des
aussi.
Des max millions.
Des max millions. Bon, ça fait un total potentiel de 83 millions. Donc, il y a plus de gens qui vont acheter des billets. Donc, quand on multiplie le nombre de gens qui achètent des billets, bien évidemment, chacune de ces personnes-là a moins de probabilités de gagner.
Les probabilités sont les mêmes parce que les gens peuvent choisir leur mise ou peuvent faire des mises éclairs, mais la probabilité de gagner le gros lot de 70 millions, peu importe le nombre de personnes qui participent, c'est une chance sur 33 millions.
OK. Comment vous calculez ça? Parce que, mettons... Des fois, je suis bonne en mathématiques, des fois pas, là. Alors, regardez. Là,
on peut faire un cours de mathématiques, mais en fait, c'est si on achète la même sélection, vous et moi, bon, on va se le partager.
C'est une question de sélection. OK, d'accord.
On va se le partager. Mais si la sélection, moi, je suis le seul à l'acheter, c'est la sélection qui est tirée, ben là, j'ai l'ensemble du 70 millions.
D'accord. C'est pas comme si, parce qu'il y a une sélection, c'est pas comme si on achetait un billet, puis qu'à ce moment-là,
non,
c'est le billet gagnant.
Exactement.
C'est une question de sélection. Est-ce que.
Quand c'est un lot garanti, par exemple, au 640, il y a un lot garanti. Mais là, c'est sur l'ensemble des billets, puis c'est des loteries pancanadiennes aussi.
D'accord.
Donc, sur l'ensemble des billets vendus pour le tirage X, alors là, il y a une chance sur le nombre de billets vendus.
Bon, une question plus personnelle, M. Dugal. Vous côtoyez à longueur de jour des millionnaires, puis des multimillionnaires. Puis là, je suis sûre que vous êtes très bien payé à l'Auto-Québec, mais vous, votre salaire... Vous payez de l'impôt dessus.
Oui,
alors,
absolument.
Mais quand
oui.
vous voyez des gens qui se disent, bon, ben moi, j'arrive avec ma Lamborghini, comprends-tu, puis des bagues aux doigts, puis tout ça, est-ce que des fois, vous vous dites, coudonc, il me semble que j'aimerais ça, moi aussi, changer mon vieux taco, puis...
C'est une bonne question, mais je participe aux conférences de presse avec les gagnants, et on voit les gens, ils ont des bonnes valeurs, ils ont des et les gens, on est heureux pour eux. Puis c'est pas cliché.
Vous êtes un marchand de bonheur.
Ben, les médias qui sont présents aussi font la même. Les journalistes qui sont présents aussi, tout le monde pourrait se dire, hey, j'aimerais ça que ça soit moi. Et c'est pour ça, moi j'achète un billet de temps en temps et j'ai le droit d'en acheter.
J'espère.
Et je souhaite gagner un jour pour peut-être justement revenir à votre antenne comme gagnant. mais qui sait.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que c'est ça, on est content pour pour les gens. Donc, il n'y a pas une question de jalousie ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai un bon travail. Je suis content de côtoyer ces gens-là.
Mais moi,
ils ont tous des histoires.
Oui, c'est ça. Ils ont tous des histoires. Mais moi, je suis pas comme vous. Quand j'ouvre mon journal puis je vois quelqu'un qui a gagné 110 millions, je dis un lus. Bon, ça fait que c'est lui qui a gagné puis c'est pas moi. Je suis extrêmement jalouse des gens qui gagnent à la loterie. Mais bon, non, mais c'est une blague. Oui, là, je les aime quand même.
Mais il y a des gagnants qui utilisent leur argent aussi
pour faire des bonnes choses.
La dernière, notre gagnant de 70 millions, le dernier.
Je l'avais interviewé.
Oui, il était venu ici à votre antenne, effectivement.
Il est venu à mon émission.
Tout à fait. Puis il a même fait des dons avec la Fondation
absolument.
Louis Véro.
Ah oui.
Alors, il y avait comme plein de projets comme ça. Ça, c'est un des projets qu'il avait, qu'il chérissait. Nous, quand on a vu ça aussi dans les médias par la suite, on était super contents.
Mais
Mais
vous avez tout à fait raison. Il était formidable, ce monsieur-là. Puis à un moment donné, on mange 3 fois par jour, puis ça nous prend un toit. On peut juste habiter un manoir à la fois. T'sais.
Un manoir avec plusieurs pièces à la fois, oui, tout à fait.
Bon, alors, je vais de ce pas m'acheter un 5e billet, puis j'en ai déjà acheté 4 pour vendredi. Mais là, vous m'avez convaincu l'affaire de une chance sur 33 millions.
Pourquoi pas?
Je trouve ça bon. Vous êtes un excellent porte-parole, Monsieur Dugas. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Renaud Dugas, donc porte-parole et directeur des relations médias chez Loto-Québec. Et la personne qui va gagner 110 millions, vous êtes donc invité à venir nous en parler quand vous aurez gagné. Merci beaucoup.
Et je l'inviterai à votre micro si elle accepte.
Ben oui, absolument, tout à fait. Ben merci beaucoup, Monsieur Dugas.
C'est moi qui vous remercie.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Tous les jeudis, Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube, vient nous parler d'un sujet détonnant. Là, elle m'a fait remarquer que j'avais une mèche de cheveux. Fait qu'on va régler ça tout de suite parce que sinon... Je vais me regarder tout à l'heure, je ne trouverai pas ça drôle. Bon, alors voilà, concentre-toi sur mes yeux.
Oui.
Parle-moi de détoxification. C'est quoi ça, cette affaire-là?
J'ai quelque chose à te proposer, OK? Un petit voyage au Mexique, en pleine nature. Tu vas pouvoir chasser les pensées négatives, même te départir de tes traumas, même de revenir pur. Il y a juste un mais, Sophie, il y a juste un mais. Tu vas te faire brûler un petit peu, oui, comme ça, brûler un peu sur la peau. Tu vas te faire injecter du poison, puis tu vas vomir pendant une demi-heure. Ça te tombe dessus.
Ben, ça ressemble à Sortez-moi d'ici, mais bon.
Ben oui, voilà. Alors ça, c'est une médecine traditionnelle qui devient de plus en plus populaire. J'ai un mot pour toi aujourd'hui, c'est le cambo. Alors, c'est
je pensais que t'avais dit, j'ai un mot pour toi aujourd'hui, arnaque.
Non, pas nécessairement, parce qu'on est plutôt dans le thème de la médecine traditionnelle. Ça s'appelle le cambo. Okay. C'est une substance, vous allez voir sur le dessus d'une grenouille, que vous allez voir dans quelques instants. C'est une grenouille, en fait, qui sécrète une substance quand elle est attaquée. Et cette substance-là, qu'on appelle le cambo, est utilisée dans des cérémonies où on va vouloir l'utiliser pour se détoxifier, OK? Ça, c'est utilisé ancestralement au Brésil, au Pérou, et on appelle ça le vaccin de la forêt. Je te parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a 2 influenceuses qui nous invitent à aller faire une cérémonie de cambo directement dans la nature au Mexique. 2 personnes. Claudia Dimopoulos, c'est une ancienne d'OD Martinique, mais surtout, celle que tu connais bien, c'est Victoria Colt, ex pornstar, qui est aussi entrepreneur maintenant.
Je pense que j'ai déjà interviewé.
Oui, tu l'as déjà interviewé et elle est chamane maintenant du cambo, comme ça. Alors, Claudia nous a présenté cette semaine
son
expérience.
Deux Claudia?
Non, alors c'est Claudia et Victoria Cole.
Ah, Victoria, OK, d'accord.
Et Victoria propose, elle est chamane et propose aux gens d'aller vivre l'expérience avec elle. Claudia est allée le faire en début de semaine. Elle nous a présenté ça sur TikTok. Je vous laisse écouter une partie de son expérience. Vous allez pouvoir savoir à quoi ça ressemble, faire du cambo.
C'est une fois que tu sens tout monter, le venin fait son effet, tu purges. Fait que c'est pour ça que tu as un bucket en avant de toi. Puis pendant 20-25 minutes, tu fais juste purger, puis ça sort tout le négatif, ça sort tout le méchant à l'intérieur de toi. Puis c'est vraiment épuisant.
Bon, c'est ça, l'idée, c'est de se purger, OK? Ça revient souvent à la détoxification, la purge. Donc, tu t'en vas faire ça, tu vomis, tu te détoxifies, tu peux avoir de la diarrhée également et tout ça. Oui, en effet. Mais surtout, est-ce que c'est pas un peu dangereux de prendre déjà du poison d'un animal qui est venimeux, te l'injecter directement dans tes vaisseaux sanguins pour après ça vomir pendant une demi-heure? Moi, je me suis dit, attention, pas nécessairement arnaque, mais quels sont les dangers? Parce que moi, ça me fait penser, par exemple, à l'ayahuasca.
Absolument.
Qui est bien connu, qui est une boisson hallucinogène que tu prends. Bon, mais ça, on l'étudie depuis longtemps. Le cambo, un peu moins. Et pour avoir des réponses à mes questions, j'ai parlé avec Guillaume Lacombe, qui est un toxicologue, qui est aussi un urgentologue. Puis je lui ai fait lire, en fait, la description que Victoria Colt fait sur son réseau social, sur Instagram, quand elle nous présente qu'est-ce que c'est, en fait, le cambo. Donc, vous allez voir à l'écran son Instagram, où elle explique, en fait, que le cambo, c'est justement la détoxification, ça renforce le système immunitaire, blablabla. Bla, bla. Et elle parle aussi de quels sont les composants du venin du cambo. Alors, je vous laisse écouter qu'est-ce que Guillaume Lacombe m'a répondu en lisant, lui d'accord, aussi, cette description-là.
La dermaceptine, son action antimicrobienne contribue à la purification corporelle. C'est pas parce qu'une substance a une action antimicrobienne qu'elle va purifier le corps. Tu sais, du Purel, là, ça a un effet antimicrobien, mais ça va pas, si vous en injectez dans les veines, ça va pas vous purifier votre corps. Tu sais. Fait que là, je pense qu'il faut faire vraiment attention.
Bon, c'est
donc,
ça.
Alors, c'est ça, c'est peut-être remettre en cause, en question, l'efficacité ou le bien fondé de la chose, mais pour l'instant, en tout cas, il semble pas dire, ne semble pas parler d'un danger en tant que tel.
Pas tout de suite, non. Lui, c'est sûr, il nous dit, il m'en a parlé plus tard, qu'il y avait des grands dangers à ça. Déjà, tu sais, il me disait qu'il y a peu de littérature, déjà, oui, sur le cambo. Il me disait qu'il y a des personnes qui ont tellement vomi, qui ont une perforation de leur estomac, de leur œsophage, parce que tu vomis énormément, c'est ce que ça crée souvent. Ensuite de ça, dans plus de 50% des cas des personnes étudiées qui se présentaient après avoir été intoxifiées par le cambo, ben ils ont eu des troubles de gestion de sodium, ce qui peut amener des complications sévères comme des troubles neurologiques, des convulsions et certaines fois ben ça entraîne la mort, Sophie, et c'est pas rien. Je vais te faire écouter un autre extrait, le côté détox moi qui m'accroche et qui semble tous un peu nous parler ces temps-ci, on veut se détoxifier le corps, on veut se détoxifier le sang, le foie, prend un jus vert, on est parti. Ben c'est quoi le danger de cette chose-là, de la détox? Puis écoutez, qu'est-ce que Guillaume m'a répondu?
L'autre chose, c'est que les gens souvent pensent qu'en vomissant et à la diarrhée, ça fait un traitement de détoxification. C'est comme on voit souvent les traitements des lavages intestinaux, des gens qui vont faire ça, mais il n'y a jamais rien qui a démontré que ça détoxifie. D'ailleurs, ces toxines-là ne se trouvent pas nécessairement dans l'estomac. T'sais, c'est pas en vomissant qu'on va se détoxifier notre sang. Là. Donc, il n'y a pas de lien de ce côté-là.
Bon, je trouve ça intéressant de voir
non,
ça.
Non, mais tu t'en vas dans le sud, t'attrapes la tourista, tu te purges de par en avant, de par en arrière, mais t'es pas détoxifié pour autant.
Sans pas détoxifié.
Non, pas vraiment.
Finalement, donc, bref, avec lui, ce qu'il m'a expliqué, entre autres, c'est qu'on pourrait mener plus d'études parce que Victoria a dit, moi, j'aimerais ça voir ça au Québec également. Ah. Mais pour l'instant, ce n'est pas accepté du tout au Canada.
Ben non,
et ailleurs dans le monde, c'est même illégal de le faire.
Oui?
Oui, ça a été interdit au Brésil, étant donné sa dangerosité. En 2021, en Australie, parce que deux personnes qui sont mortes des suites du rituel. Donc, il y a des dangers à ça. Et là, des jeunes filles qui les regardent, qui les trouvent belles, qui peut-être les idolâtrent, se disent, hey, ça a l'air le fun. Je vais aller le tester. Je me dis, attention, je pense qu'il
absolument
faut être prudent.
Très, très intéressant. Excellente chronique, excellent reportage. Dis-moi, Victoria Colt, elle fait ça dans quel pays, elle?
Elle est au Mexique.
Elle est au Mexique. Donc, oui, c'est au Brésil que c'est interdit.
Au Brésil, c'est interdit. En Australie, c'est interdit également. Elle est au Mexique. Donc, c'est plus pays d'Amérique du Sud.
Juste une idée, ça coûte combien aller faire la détoxification?
C'est 200 $. C'est pas si cher. Ça compte pas, je pense, c'est évidemment le billet d'avion.
Ben non, c'est sûr.
Mais payer pour les services d'un chaman et de cette médecine traditionnelle, c'est 200 $. Et j'ai même vu, si jamais toi, Sophie, par exemple, tu disais, waouh, moi, c'est sûr, je veux faire ça, puis même, je veux aller plus loin, je veux être chaman, ben, tu peux faire une formation de plusieurs heures pour seulement 7 000 $ canadiens environ.
Tu me connais
et devenir
tellement bien.
Chaman, Sophie, moi je pense que dans la prochaine année, après Sortez-moi d'ici, c'est le chaman.
Ah oui, 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 c'est ça. Puis c'est tellement moi, ça, les chamans. Merci beaucoup, c'est très drôle. Pour seulement 7 000 $, je pourrais devenir chamane. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci, Marianne Bessette et Maxime Sawyer à la recherche. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde. Merci à vous. Ben oui, je regarde la lumière rouge. Non, la caméra est là. Merci, au revoir et à demain.